Monique Lecoufle, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant que vous nous présentiez votre invité et que vous nous parliez de la vigne de Rachel, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs ?
Alors, je suis une ancienne professionnelle de santé. J'étais directeur des soins et aussi expert de la HAS. Et j'avais été invitée vraiment à ce service de la vie. Et le Seigneur m'a invitée à prolonger les activités en étant au service de cette œuvre, qui est donc la vigne de Rachel, qui est une œuvre qui n'est pas que française. Elle est aujourd'hui dans 85 pays et 49 États des États-Unis. Et donc, voilà, c'est un grand privilège d'être à ce service après avoir moi-même bénéficié de cette grâce magnifique et de ce dont nous allons vous témoigner aujourd'hui, mais dont nous sommes aussi les bénéficiaires. Donc, Géraldine, qui aujourd'hui est avec moi, elle participe aussi de notre équipe, mais elle est comme moi aussi de ces miracles de la miséricorde que nous recevons, parce que nous ne pouvons transmettre que ce que nous recevons. Et ça, c'est vraiment l'émerveillement de ce que le Seigneur nous donne de vivre. Et c'est lui qui est vraiment lumière et vérité dans nos vies, mais que aussi à travers les épreuves. Aujourd'hui, c'est la Saint Padre Pio, et c'est assez extraordinaire de venir à cette rencontre dans ce jour de fête. Et c'est dans l'épreuve, il est dit, dans l'épreuve, nous faisons l'expérience du salut que nous goûtons avec la joie. Et ça, c'est vraiment que la transformation du chagrin en joie, ce dont nous sommes venus vous témoigner ici. Alors, la vigne de Rachel, elle est donc une œuvre qui a été fondée par Teresa Burke. Et Teresa Burke, c'est une thérapeute spécialisée en traitement de traumatisme. Elle a commencé en milieu hospitalier. Et puis ensuite, elle a commencé à accompagner des groupes. D'abord sur des semaines. Et elle s'est aperçue de la richesse d'allier les soins, ce que j'appelle du soin intégral, c'est-à-dire pas seulement le traitement émotionnel, psychologique, psychosensoriel, mais de l'associer avec la parole de Dieu. Et donc, elle a d'abord construit un programme sur 15 semaines, mais ensuite, en 1995, elle a fait un programme qui est adapté à un week-end. Alors, c'est cela qu'aujourd'hui, nous donnons en France. Et depuis 2009, c'est Anne-Hélène qui vivait aux États-Unis et qui avait découvert et expérimenté ce parcours là-bas, et qui, avec des personnes qui étaient du Canada, avec à la demande de Monseigneur Nicolas Brouet, qui à l'époque était à Nanterre, elle a organisé la première retraite. Moi-même, j'avais rencontré Teresa Burke en 2005 et qui nous avait mis en contact, mais alors Anne-Hélène vivait aux États-Unis. Et donc, nous avons commencé cela à partir de 2009, sous la responsabilité d'abord de Anne-Hélène, et ensuite le relais s'est fait un peu plus tard. Alors, pourquoi la vigne de Rachel ? Ça, c'est vraiment important. Rachel, elle est celle qui, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, elle est celle qui ne veut pas être consolée parce que ses fils ne sont plus. Et la vigne, ben pourquoi la vigne ? Alors, il y a plein d'images de la vigne, hein, mais principalement, nous prendrons les paroles du Christ lui-même, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce verset, c'est le cœur du processus de guérison spirituelle et émotionnelle qui est réalisé pendant le week-end de la retraite. En essayant de comprendre le mystère de la mort, nous nous tournons vers Dieu dans les grands moments de détresse, de traumatisme et de perte de vie humaine. Alors, c'est certain que la mort créée par l'avortement souvent mène à l'angoisse et à un intense désir de celui que l'on ne peut retrouver. Et nous pleurons. Mais pendant le week-end de la vigne, nous allons vivre comme un voyage. Et je vais encore lire un verset qui traduit ce voyage. C'est pourquoi je vais l'attirer, je vais la conduire au désert. Je parlerai à son cœur, là je lui rendrai ses vignobles et je ferai du Val d'Accor une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait au pays d'Égypte. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité. Et tu connaîtras le Seigneur. Alors, c'est mystérieux ces miracles de la miséricorde dont nous sommes les témoins. Mais nous allons vraiment demander que pour chacun de nous, le Seigneur puisse renouveler ses merveilles et ouvrir nos yeux pour pouvoir nous donner de le voir. C'est vraiment cela qu'il nous donne parce que bien sûr, ce sont des miracles très intimes. Mais nous allons vous en partager au moins un témoignage. Et déjà, Géraldine va vous dire un petit peu plus ce que sont ces week-ends.
Alors, merci Monique. Bonjour, je suis Géraldine. Je me présente rapidement. Je suis soignante aussi. Je travaille en milieu hospitalier. Et j'ai expérimenté moi-même la vigne de Rachel en juin 2012. Et par la suite, j'ai souhaité rejoindre l'équipe d'animation de la retraite qui se fait à Paris, région parisienne. Alors, avant toute chose, je vais vous dire certaines choses concernant la perte d'enfant non-né. Alors, cette perte peut survenir à la suite d'une intervention volontaire de grossesse, d'une intervention médicale de grossesse, d'une fausse couche, de grossesse extra-utérine et de l'échec d'une fécondation in vitro. Il faut savoir que le terme avortement est un mot générique qui est utilisé pour toutes les pertes d'enfants non-nés. Donc lorsque la perte d'un enfant non-né intervient au sein d'un couple, au sein d'une famille, cette perte est à l'origine de souffrances et de séquelles émotionnelles qui sont regroupées sous l'appellation de syndrome post-avortement. Alors, il peut s'agir, c'est une liste non exhaustive, il peut s'agir de pleurs incontrôlés, de chagrin, de tristesse intense, de troubles du comportement alimentaire, de dépression, de pensées suicidaires, de colère et même de rage. Parfois, on parle de flashbacks, les retraitants évoquent des cauchemars, de l'anxiété ou des crises de panique. Il y a aussi ce qu'on appelle une anesthésie émotionnelle qui peut être à l'origine de difficultés relationnelles. Il y a aussi un défaut d'estime de soi. Il peut s'agir aussi d'abus de substances enfin de drogue, d'alcool ou d'addictions diverses. On peut aussi rencontrer des personnes qui ont peur d'être des femmes qui ont peur d'être enceintes, ou alors de personnes qui ont carrément peur à la vue de femmes enceintes. Et à l'opposé aussi, il peut s'agir de grossesses à répétition ou de grossesses non planifiées, avec une incapacité à pardonner et à se pardonner. Maintenant, je vais vous parler des retraites de la vigne de Rachel. Alors, actuellement, il y a deux équipes. Il y a une équipe en région parisienne, la nôtre. Je suis avec Monique Lecoufle, et entre autres. Et il y a une autre équipe qui est dans la Drôme, à la maison de Saint-Joseph à Marsanne. Donc, les retraites de la vigne de Rachel proposent une démarche qui, loin de l'action quotidienne, le temps d'un week-end, dans un cadre tout à fait sécurisant, dans un climat aimant et dénudé de jugement, donc propose un programme qui se déroule comme un chemin pascal, puisque ça commence le vendredi à 16h et ça se termine le dimanche à 16h. Alors, pour la Paris, région parisienne, ces retraites se déroulent à la Maison de la Trinité et des captifs au couvent de Cerfroid, qui est un couvent dans l'Aisne, situé dans l'Aisne, et qui est surtout le berceau de l'ordre des Trinitaires, qui est un ordre ancien, qui a été fondé en 1193 par Saint Jean de Matha et Saint Félix de Valois, en vue du rachat et de la libération des captifs. Donc c'est dans ce lieu que se déroulent en région parisienne les retraites de la vigne de Rachel. Donc ce programme permet de se concentrer sur le vécu de l'avortement spécifiquement et de se concentrer sur l'impact, de reconnaître l'impact qu'a eu cette perte d'enfant dans la vie des personnes présentes. Il aide à révéler les émotions non apaisées et avec lesquelles beaucoup se débattent après la perte de ces enfants. Donc, parce qu'en raison de l'anesthésie émotionnelle, du secret et ou des non-dits, des sentiments contradictoires plus ou moins enfouis peuvent émerger et provoquer des symptômes d'un stress post-traumatique. Donc ce parcours offre un modèle de traitement qui sollicite tous nos sens en intégrant des dimensions émotionnelles, psychologiques et spirituelles. Alors, il utilise pour se faire des exercices d'écriture vivante sur une parole de l'Évangile avec des actions symboliques qui engagent l'esprit, l'âme et le corps. Donc, ces écritures vivantes sont couplées généralement à de l'animation d'activités de groupe destinées à un but thérapeutique. Elles peuvent aussi être couplées à la prière, bien évidemment, à des techniques de restructuration cognitive et puis à des échanges et des discussions. Donc, tout cela favorise un efficace travail de deuil ancré en Jésus-Christ et dans la parole de Dieu. À tout cela s'ajoute une proposition de sacrement. Le samedi, notamment, il est proposé un sacrement de réconciliation et l'adoration au Très-Saint-Sacrement, et le dimanche, un service commémoratif et une messe. Il faut savoir que c'est un week-end qui est dense. Le rythme y est soutenu et intense. Mais cela permet surtout d'entrer dans une nouvelle relation à l'amour et à la compassion de Dieu et des autres en accédant au pardon pour soi-même et pour autrui. Ça permet aussi d'expérimenter la force de la résurrection dans sa propre vie et donc de redonner du sens à ce qui s'est passé en autorisant Dieu à transformer le chagrin vécu en une expérience à la fois de libération, d'espérance et de paix. Donc au final, au travers d'une rencontre intime avec le Dieu vivant, chaque participant est invité à reconnaître combien Dieu nous connaît, nous aime malgré nos faiblesses. Ce programme qui est essentiellement conçu d'abord pour les femmes, sa démarche est étendue à toutes les personnes qui sont concernées par le deuil d'un enfant non-né. C'est-à-dire, la démarche s'étend aux membres de toute la famille touchés par ce traumatisme, à savoir aux hommes, aux grands-parents, aux autres enfants, à toute la fratrie. Et à ce sujet, concernant la fratrie, cela, depuis un certain nombre d'années, il a été mis en évidence un syndrome qui est le syndrome du survivant. Nous n'allons pas en parler aujourd'hui, ça va certainement peut-être faire l'objet d'une autre émission. Donc le programme de la Vigne de Rachel est un programme unique dans son processus, mais c'est le gage d'un rétablissement efficace et pérenne. Et à ce propos, il confirme les paroles que Mère Teresa de Calcutta a dit à Teresa Burke, la fondatrice donc de ce programme. Son souhait, c'était que la retraite, la Vigne de Rachel, soit un instrument de la soif de Jésus de guérir et de restaurer la vie, l'abondance de la vie qu'il a promise dès maintenant et à quiconque cherche sa paix. Alors, je tiens quand même à préciser une chose que j'ai un peu oubliée, c'est que la participation des retraitants est vraiment quelque chose de confidentiel. Alors, les week-ends sont animés par une équipe de bénévoles en présence d'un prêtre et chacun ayant fait l'expérience de la retraite pour lui-même, avec parfois... pour certains, une perte identique, c'est-à-dire la perte d'un enfant non-né. Donc, tous ont à cœur et sont à même de répondre aux besoins de chaque participant. Voilà.
Oui. Et parmi les personnes qui sont invitées à venir animer ces chemins vraiment de consolation et d'expérience de miracle de la miséricorde, il y a des personnes qui n'ont pas eu de vécu ni dans leur famille, ni dans leur vie personnelle d'une perte d'enfant non-né. Mais on les invite à ce moment-là, enfin c'est Teresa Burke elle-même hein, d'ailleurs qui invite ces personnes lorsqu'elles vont venir vivre le week-end pour elles-mêmes à évoquer une perte ou un deuil qu'elles ont vécu, mais aussi une des suppositions de la Vigne de Rachel, c'est que nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, avorté la volonté de Dieu dans notre vie à certains moments, et que donc nous avons tous besoin de recevoir la guérison de Dieu. Ça, c'est vraiment important parce que c'est fondamental. L'expérience que nous faisons tous, qu'il n'y a aucun jugement, et d'ailleurs, c'est toutes les formes de perte d'enfants dans les expériences de vie de nos familles. Mais ça, c'est très, très essentiel parce que chacun, à certains moments, nous avons eu des ratés. Alors, nous allons vous partager un beau témoignage qui a été écrit par une personne qui est venue en témoigner dans notre pays. Elle a vécu un chemin de vie extrêmement douloureux, une descente, je dirais, dans les tréfonds de l'épreuve, et sa remontée a commencé avec la vigne. Elle s'appelle Patricia Sandoval et elle a écrit son témoignage dans un livre qui s'appelle « Transfigurée ». Mais elle est typique de ce que nous pouvons expérimenter, bien sûr, chacun à sa façon, puisque nous sommes tous uniques dans cette expérience de communion des saints qui nous rapproche de la rencontre intime avec le Seigneur, mais aussi avec tous ces petits enfants du ciel. Alors, c'est donc Patricia Sandoval qui témoigne. J'entrais dans la Vigne de Rachel sans savoir ce que je portais en moi. La terrible souffrance de mes avortements avait été refoulée depuis si longtemps et à un tel point que je n'étais absolument pas consciente de mon grand désir de guérison. À travers les exercices, les prières et l'atmosphère du week-end qui vous élevait, je ne recevais pas seulement la guérison de mes avortements, mais des tristesses refoulées, de circonstances et de ressentiments passés qui disparurent. À la vigne de Rachel, il n'y avait aucun jugement, seulement le pardon. Nous étions tous embarqués dans le même bateau, redoutant d'être balayés par les courants qui avaient secoué nos âmes depuis si longtemps, et nous trouvions des rivages sûrs les uns chez les autres et en Dieu. Chaque exercice m'ouvrait à une dimension nouvelle, mais un moment m'affecta tout particulièrement. Le samedi soir, le Seigneur me fit un cadeau durable et qui changea ma vie. Les yeux fermés, plongé dans ma prière, je me retrouvais dans un champ verdoyant. Dans la vision, en avançant, je remarquais au loin trois enfants. Côte à côte, l'air tintinait guindé comme des photographies de trois enfants de Fatima au Portugal. D'une certaine manière, j'ai su dans mon esprit qu'il s'agissait d'un rendez-vous divin et que Notre-Dame elle-même avait préparé ses enfants. Elle les avait même habillés pour l'occasion. J'ai su aussi, sans nul doute, que c'était mes enfants. Mon cœur s'emplit d'un mélange étrange de joie et de douleur. Je pouvais voir les enfants clairement, mais sans couleur, comme si la vision était en noir et blanc. Le plus âgé et le plus grand se tenaient à gauche. Une petite fille, apparemment de 9 ans, vêtue d'une blouse à manches longues sur une jupe descendant jusqu'aux genoux, je remarquais qu'elle me ressemblait quand j'étais petite. Mais sa personnalité semblait plus réservée et sérieuse que la mienne à son âge. À gauche, légèrement plus petit qu'elle, il y avait un petit garçon d'une beauté frappante, d'environ 7 ans, ressemblant à Saul, son père. Timide et craintif, les épaules légèrement voûtées, il était adorable dans son short à bretelles, des chaussettes jusqu'aux genoux et un béret. J'avais toujours pensé que j'habillerais mon garçon comme cela. Le troisième enfant, une petite fille d'environ 6 ans, arborait un visage rond de poupée et ressemblait moins à moi ou à Saul. Elle portait un chemisier à manches courtes, une jupe à carreaux et un sourire exubérant. Aucun apparemment n'osait bouger et leur tenue spéciale me semblait loin d'être parfaite. Puis, mon champ de vision zooma sur le visage de ma Benjamine, si près que je pouvais voir la fossette sur sa joue gauche. À ma vue et faisant fi des convenances, elle se mit à sauter de joie. Tournant la tête, elle saisit la chemise de son frère et se mit à pleurer. « La voici, la voici !» Je sus dans mon esprit qu'ils avaient prié pour moi et attendaient cette rencontre spéciale depuis longtemps. Je compris que moi aussi, avec des sourires de grande joie sur tous nos visages et un amour plus profond que les paroles, nous nous regardâmes avec amour, puis la vision s'évanouit. J'étais triste de les perdre de vue, mais tout à la fois je me sentais comblée. Je n'avais pas un seul instant pensé à mes avortements comme à des enfants. Savoir maintenant, sans l'ombre d'un doute, qu'ils n'avaient pas seulement existé, mais qu'ils étaient toujours vivants et dans la joie du ciel, représentait un cadeau incomparable. Je n'étais plus une meurtrière, j'étais une mère. Et le fait que je reverrais un jour mes enfants, pas un moment, pas une journée, mais pour l'éternité, allait au-delà de mon concept humain de miséricorde. Je nommai mes trois enfants, Mariana, en l'honneur de la Vierge Marie, Emmanuel, en représentation de Jésus, et Rosie, d'après le Saint Rosaire. Je me réjouissais de savoir qu'ils m'aimaient vraiment, qu'étant si pur et dans la présence réelle de Dieu, ils m'avaient pardonné depuis longtemps. Comment pourraient-ils ne pas l'avoir fait ? Et de réaliser qu'ils avaient intercédé pour moi, leur maman, pendant les 10 dernières années de ma vie, m'emplissait d'une immense gratitude. Ce week-end, mes procédures se transformèrent de tâches impardonnables sur mon âme en fautes humaines couvertes par la croix que Jésus utilisait maintenant pour m'inonder d'amour. Les saintes Écritures étaient vraies. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tard cette nuit-là, je fis par écrit à mes enfants cette promesse. « Puisque je ne vous ai pas donné la chance de vivre et de marcher sur la terre, je ferai tout mon possible pour défendre la vie, je serai la voix de ceux qui n'ont pas de voix. » En rentrant chez moi en voiture, je reçus un texto sur mon mobile. Il était de Saul. J'avais maintenant 27 ans et je n'avais aucune nouvelle de lui depuis 7 ans. J'avais depuis longtemps changé de numéro. « Salut, comment vas-tu depuis le temps ?» disait le texto. « C'est vraiment pour te dire bonjour et savoir ce que tu deviens. » Un sentiment ancien, familier, de répulsion me submergea. Mais je le mis sur le compte d'un symptôme du syndrome d'avortement. Je me demandais ce que Dieu me préparait, mais je connaissais déjà la réponse. Si Saul ne m'avait pas contacté, je ne l'aurais jamais recherché pour lui dire la vérité. L'excuse que j'avais longtemps gardée en tête était que, puisque je ne savais rien de lui, pas même où il se trouvait, il ne saurait jamais rien. Mais mon excuse ne faisait pas partie du plan de Dieu. Trop effrayée pour parler à Saul, je lui envoyais un texto pour lui demander son adresse afin que je puisse lui envoyer une lettre importante. Cette nuit-là, je m'assis pour écrire. Je t'écris pour te demander de me pardonner ce que je ne mérite pas. Lorsque j'ai reçu ton texto, je rentrais chez moi après une retraite dénommée la vigne de Rachel pour les personnes qui sont passées par l'avortement. Une retraite où j'ai vécu une grande guérison et expérimenté l'amour et la miséricorde de Dieu. Maintenant, je dois te dire la vérité, je n'ai pas avorté seulement un de nos enfants, j'en ai avorté trois. Notre première grossesse n'a pas fini par une fausse couche et je t'ai caché une deuxième grossesse à laquelle j'ai mis fin aussi. Il m'est difficile de te demander ceci, mais j'aimerais que tu me pardonnes. Je suis tellement désolée de t'avoir enlevé tes enfants et ton droit d'être père. Sincèrement, Patricia. Trois ou quatre jours plus tard, je reçus un simple texto en retour. Merci de m'avoir dit la vérité. J'espère pouvoir retrouver un jour cette guérison que tu as trouvée. Prends soin de toi. Je perçus toute la souffrance dans les mots de Saul, qu'il me fut difficile de lire, mais en même temps, je sus qu'à cause de ma participation à la retraite, la grâce était également tombée sur lui. Le moment de son premier texto était très troublant. Peut-être nos enfants au ciel avaient harcelé Dieu pour le laisser rencontrer leur père. Voilà un témoignage. Alors, cette Patricia est devenue vraiment un témoin de la vie, mais nous avons, à travers des années et des personnes qui viennent vivre ces temps, nous avons beaucoup de témoignages, bien sûr, qui ne sont pas rédigés autant que celui de Patricia, puisqu'il a été publié. Mais c'est vrai que beaucoup, dans l'évaluation qui est faite à la fin de la retraite, vraiment rendent grâce pour, justement, cette rencontre avec les enfants. Alors, elle se fait de manière très diverse, très unique. Mais, par exemple... La rencontre avec mes enfants en vrai, qu'est-ce qui a été significatif dans le week-end ? C'est cela, la rencontre avec nos enfants. C'est, beaucoup de personnes en témoignent. Alors, c'est vraiment un émerveillement que nous vivons de retraite en retraite et qui, vraiment, nous ne sommes que des passeurs. Nous ne sommes, voilà, que nous transmettons tout l'amour que nous avons dans notre cœur, mais en fait, c'est vraiment chacun qui, en ouvrant son cœur, peut accueillir au fond de lui cette rencontre très intime avec le Seigneur et ce cadeau de la communion des saints. Parce qu'en fait, c'est cela, les miracles dont nous sommes témoins, ces miracles de miséricorde de ce Christ qui a vaincu la mort et qui a vaincu le mal, et que nous ayons perdu les petits par une fausse couche, malheureusement une IMG, une IVG, enfin, quelle que soit la manière, ces petits, ils continuent leur chemin, parce que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et vraiment, les témoignages dans les évaluations sont magnifiques. Par exemple, une personne nous dit « J'ai fait beaucoup de retraites, mais j'avoue que là, je reste stupéfaite pour tout ce qui s'est vécu. C'est tout simplement incroyable et ça vaut des années de thérapie. Cette retraite est une source de vie, un moyen pour ressusciter. Elle est très ajustée. Qu'est-ce qui a été le plus significatif? Les temps de partage, officiels ou informels, qui nous permettent de vivre la communion des saints dès à présent sur la terre, de se rejoindre dans nos souffrances respectives, fausse couche, IVG, stérilité, maternité blessée, sans se juger, mais pour s'entraider à avancer. Et nous avons, vous savez, par exemple, des magnifiques témoignages avec les personnes qui ont vécu des syndromes de survivants, mais aussi les grands-mamans. Il y a, par exemple, dans les témoignages écrits, une grand-maman qui était très chagrine d'avoir perdu plusieurs de ses petits-enfants. « J'ai depuis la vigne de Rachel une paix sublime, avant-goût de l'éternité, sachant que j'y suis émotionnellement attendue d'une manière unique. » Et alors elle dit « grâce à vous qui nous avez si sûrement conduits où nous devions arriver aux portes du ciel, où sont tous ces enfants ?» Et elle dit qu'elle est joyeuse au milieu de ses petits-enfants, alors qu'elle était vraiment tellement triste Aussi, cette personne témoigne des changements que cela a opéré dans sa famille. Alors, il y a encore de nombreux témoignages, mais vraiment, sachez que le témoignage de Patricia, nous nous sommes permis de vous le transmettre parce qu'il est très bien rédigé. Mais vraiment, c'est pour chacun, avec son tempérament, avec... ce que notre langage aussi, mais il y a un cadeau pour chacun. Donc, nous vous invitons pour ceux qui ont besoin de accueillir, ces cadeaux magnifiques que le Seigneur veut nous donner.
Alors, Monique et Géraldine, vous avez parlé en première partie d'émission des troubles consécutifs à un avortement ou une fausse couche. Par rapport à ce que vous avez décrit de ces troubles, on peut imaginer que les personnes qui sont dans ce cas-là ne les voient pas, ne se rendent pas compte de l'état de détresse dans lequel elles se trouvent. Quels conseils donneriez-vous à l'entourage de ces personnes pour trouver les mots, pour les inciter à participer à un week-end de la vigne de Rachel?
Déjà, c'est important qu'une personne qui présente certains troubles, évidemment, Géraldine a évoqué un ensemble de symptômes du syndrome, mais personne ne présente tous les symptômes, c'est l'un ou l'autre. Mais souvent, la grande difficulté, c'est qu'on ne fait pas le lien entre certains symptômes qui se manifestent et le fait d'avoir vécu cette perte d'enfant. Alors, c'est déjà une étape très importante et c'est vrai qu'une personne qui... par exemple, un accompagnement psychothérapeutique, ça peut l'aider à faire le lien. Mais Teresa Burke elle-même, quand elle a commencé à identifier ces liens, elle travaillait alors dans un milieu institutionnel de thérapie, notamment de troubles de l'alimentation. Eh bien, les psychiatres, elle a été très, très, très choquée parce qu'on lui demandait de surtout ne pas faire les liens entre les avortements qui avaient été vécus et qui malheureusement souvent ressortaient dans les événements qui avaient déclenché ces troubles de l'alimentation. C'était un facteur déclenchant, bien sûr, sur un terrain de fragilité. Une autre personne va manifester des troubles d'une autre manière. Mais en fait, c'est comme cela que Teresa a commencé à approfondir l'impact dans nos vies de la perte des petits. Mais il faut encourager, si vous voulez, il faut encourager une personne qui présente certaines difficultés à prendre soin d'elle, c'est sûr, mais aussi, encore faut-il que cette souffrance cachée et souvent secrète, parce que souvent, on n'en parle même pas. Ces petits-enfants n'ont pas la place dans nos vies. Et ça, c'est déjà une étape extrêmement importante que de pouvoir libérer une parole. C'est-à-dire qu'au moment où quelqu'un va vivre, par exemple, une fausse couche, ben vraiment d'accompagner ce chagrin. Aujourd'hui, peut-être ose-t-on le faire un peu plus parce que... Mais en même temps, quand quelqu'un a une IVG, par exemple, pensez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, des mineurs, qui peuvent être accompagnés pour vivre une IVG sans que leurs parents soient informés. Et donc, après, les parents peuvent constater que cet enfant, elle a une grande tristesse, qu'au niveau de l'école, alors qu'avant, elle réussissait bien, elle est en difficulté, etc. Mais les parents, parfois, ne peuvent pas faire le lien. Et si l'enfant, enfin la jeune n'ose pas le transmettre à ses parents, eh bien, ça va être enfoui. Teresa Burke, elle avait écrit un livre, elle a écrit un livre, mais qui n'est pas traduit encore, malheureusement, qui s'appelle « Cette souffrance interdite ». C'est une souffrance cachée, souvent. Donc, il faut faire le lien. Bon, si on le sait, si on sait que quelqu'un a vécu d'une façon ou d'une autre, a perdu des enfants, eh bien, c'est vrai que c'est plus facile de lui transmettre l'information qu'il existe des week-ends pour vivre ce chemin de consolation avec la rencontre de ses enfants. Ça, c'est très délicat comme sujet, votre question.
Alors, nous avons reçu des SMS. Tout d'abord, une remarque de Marie qui écrit « Excusez-moi de penser à toutes les jeunes femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et je compatis à la détresse de celles qui avortent. » Voilà donc pour le message de Marie. Merci beaucoup Marie pour votre message. Et une question de Gladys. Alors, qui rejoint ce que vous avez dit en début d'émission, donc la vigne de Rachel qui est présente dans 85 pays. Et voici la question de Gladys. Est-ce que cette association existe ailleurs en Europe ? J'habite en Suisse. Merci et bonne journée.
Alors, il faudrait regarder sur le site international de Rachel's Vineyard s'il y a en Suisse une branche de la vigne de Rachel. Personnellement, je n'ai pas connaissance d'une équipe en Suisse. Et il faudrait savoir si cette personne est en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Mais personnellement, je ne le sais pas. Par contre, il y a une équipe à Marsanne. Marsanne est dans la Drôme et ce n'est pas si loin de la Suisse. La prochaine retraite, d'ailleurs, est au mois de novembre, parce que là, les dates, il y en avait en septembre, et puis maintenant, c'est en novembre, du 12 au 14 novembre, à Marsanne, justement. C'est près de Montélimar, et ce n'est pas si loin de la Suisse. Mais sur le site international, Le site français, c'est lavignederachel.net. Et il y a le lien pour le site international. Et là, vous pouvez voir de tous les pays où cela existe. Il y a environ 1000 week-ends par an de la vigne de Rachel, actuellement. Et pour ce qui est des personnes, bien sûr, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, d'ailleurs, je l'ai évoqué dans un des témoignages, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'épreuves dans ce domaine, et souvent, il y a dans ces périodes d'attente et de désir d'enfants, parfois aussi des pertes d'enfants. Et nous voyons aussi beaucoup de chagrin à consoler pour les parents qui ont vécu des fécondations in vitro qui ont échoué. Et ils vivent aussi ces chemins de consolation pour accueillir ces enfants. Parce que même si ces petits-enfants n'ont pas pu arriver à terme, ces petits-enfants ont été conçus.
Eh bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci Monique, merci Géraldine. Et puis à bientôt pour une nouvelle émission, Miracle de la Miséricorde.
Merci Sandra. Merci Sandra. Bonne journée à vous. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.